RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'Intégral Sport, après-midi de direct à vivre sur RMC avec, notez le rendez-vous, dès 15h, le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. L'année dernière, c'était évidemment un super souvenir pour la France avec cette victoire d'Esteban Ocon au volant de son Alpine. On espère revivre la même heureuse issue, un Grand Prix à vivre avec Jean-Luc Roy et Denis Chevrier, ingénieur historique de chez Renault tout à l'heure. Évidemment, ce dimanche est marqué par le trophée des champions, le Paris Saint-Germain affronte le FC Nantes à Tel Aviv, coup d'envoi à 20h, match à vivre en direct et en intégralité sur RMC. Nous irons sur place dans un instant retrouver nos envoyés spéciaux pour la présentation de ce premier match officiel pour Nantes et le PSG version Christophe Galtier. Le Tour de France femme avec la fin, l'épilogue aussi aujourd'hui. Hier, la néerlandaise Annemiek van Vleuten a assommé la course. Aujourd'hui, finale en apothéose avec une arrivée en haut de la super planche des Belles Filles. On retrouvera Valentin Jamin pour nous parler de cette dernière journée pour le Tour de France femme. Hashtag RMC Live, appli direct au studio, les moyens pour interagir avec nous. C'est parti pour l'Intégral Sport. Pour la deuxième fois de suite, le trophée des champions s'exporte à Tel Aviv en Israël. Coup d'envoi à 20h de Paris Saint-Germain FC Nantes, le Paris Saint-Germain champion en titre, le FC Nantes vainqueur de la Coupe de France. Aux commentaires, Timothée Mémon et Arthur Perrault, ils sont avec nous depuis Tel Aviv. Salut messieurs.
Salut Arnaud, salut à tous.
Salut Arnaud, salut à tous.
Il fait beau, j'imagine, à Tel Aviv. Hein. C'est une région réputée pour les vacances, l'été notamment.
262 jours par an à Tel Aviv.
Ah, c'est pas mal.
Ça aurait peut-être pas de chance qu'on tombe sur les 3 jours de pluie.
Et les 100 autres jours, c'est juste un peu de nuages d'éclaircies, non?
C'est 362 jours par an de soleil. Donc c'est 3 jours. Il y a 3 jours,
j'ai compris, 200. Ah oui,
non, 3 jours de pluie. Voilà. Ça aurait vraiment pas été de chance.
Ah oui, pour le coup, c'est sûr. Bon, Arthur, Christophe Galtier était en conférence de presse hier, tout comme Marquinhos, tout comme côté Nantais également Antoine Comboiré. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain fut notamment interrogé sur le schéma tactique qu'il souhaite mettre en place cette saison et a commencé tout à l'heure pour ce premier trophée à aller chercher.
Exactement, ce fameux 3-4-1-2 travaillé par Christophe Galtier et son staff depuis leur arrivée dans le club de la capitale, avec surtout cette défense à 3 que l'on vous redonne, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, défense fragilisée lors de la tournée estivale au Japon, notamment lors du premier match face au Kawasaki Frontal. On rappelle que le Paris Saint-Germain sur ses 3 rencontres dans l'archipel avait quand même encaissé 3 buts. Il faudra se montrer beaucoup plus studieux pour cette défense ce soir. Christophe Galtier a d'ailleurs été interrogé sur le sujet hier en conférence de presse. Il a beaucoup dit qu'il fallait trouver un équilibre entre l'attaque et la défense et pourquoi pas peut-être à un moment envisager une autre alternative dans ce dispositif. Je vous propose d'écouter Christophe Galtier.
On a plusieurs possibilités, évidemment qu'il y a l'absence de Kylian, qui est une absence importante. Il y a aussi cette possibilité de jouer avec 3 vrais milieux de terrain. Je ne changerai pas notre organisation défensive. C'est assez clair dans ma tête, et je crois que c'est assez clair dans la tête des joueurs concernant le match.
Donc 3 défenseurs centraux, ça on est plutôt habitué depuis le début de la saison, tu viens de le dire Arthur. Et là, il y a ces 3 milieux aussi, parce que c'est vrai qu'on avait plutôt vu Vitinha, Verratti comme vraiment 2 récupérateurs et après une animation offensive avec 4 joueurs devant. Là, il va y avoir une option peut-être un peu différente.
Oui, alors, il a essayé de brouiller les pistes. Hier Christophe Galtier, on a malgré tout pu apercevoir une mise en place et on se dirigerait vers la même composition d'équipe qui a été alignée face au Gamba Osaka, dernier match de préparation au Japon, où le Paris Saint-Germain s'était imposé 6-2, avec donc Donnarumma dans les cages qui reste donc ce numéro 1 pour Christophe Galtier, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, on le rappelle, en défense, et donc au milieu de terrain Hakimi sur son côté droit, la paire Verratti-Vitinha, la recrue parisienne qui s'est montrée très en jambes là aussi lors du dernier match de préparation, Mendes sur son côté gauche, Messi juste devant eux en électron libre, et devant la paire Neymar-Sarabia, le joueur espagnol préféré vraisemblablement une nouvelle fois à Arnaud Calimuendo, malgré les 2 très bonnes entrées en jeu du Titi parisien au Japon. Voilà pour ce choix. C'est vrai que Sarabia revient de près du Sporting où il a réalisé une très très bonne saison et donc il a pour l'instant les faveurs de Christophe Galtier.
Oui, Sarabia qui revient, qui est un joueur qui était aussi apprécié de la part des supporters. Alors c'est vrai qu'il y avait embouteillage, mais il pourrait s'imposer, en tout cas sur la façon dont il convainc Christophe Galtier, puisque il était déjà aligné face à Osaka.
Il a moins un profil offensif en fait. C'est pour ça que nous ça nous a un peu surpris. C'est vrai que Kalimuendo lui a vraiment un pur attaquant. Sarabia a tendance à revenir un peu dans l'axe, donc dans le cœur du jeu. Et pour l'instant ça fonctionne bien. C'est aussi sans doute pour ça que Christophe Galtier a décidé vraisemblablement de reconduire ce 11-là.
Et dans cette composition probable, tu n'as pas cité Kylian Mbappé parce que il est suspendu et il n'est pas en Israël.
Exactement. C'est vrai que ça avait été évoqué un certain temps, le fait que Kylian Mbappé fasse le voyage malgré sa suspension. Finalement, il a été décidé qu'il resterait à Paris pour effectuer des soins du côté du camp des loges, tout comme Hugo Ekitike, avant-dernière recrue parisienne, qui lui va poursuivre sa préparation pour vraiment être à 100% pour le retour, la reprise de la Ligue 1. Et par contre, on pourra apercevoir Nordi Mukiele, qui lui est bien présent ici en Israël.
Le Paris Saint-Germain qui débutera sa saison de Ligue 1 samedi 21h à Clermont pour la première journée de Ligue 1. Donc cette défense à 3, finalement, est-ce que c'est pour l'instant la première patte Galtier que l'on voit, parce qu'on sent vraiment que le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain veut persister et signer avec cette défense à 3 centraux?
Oui, c'est vrai que plusieurs fois on l'a interrogé sur ce sujet à l'issue des rencontres au Japon. Lui persistait dans cette direction en disant il va nous falloir du temps, il va falloir trouver ce fameux équilibre. Marquinhos en a parlé justement hier sur cette défense à 3. On l'a mis face à ses interrogations, le fait que cette défense était souvent prise dans le dos par les appels des équipes adverses. Je vous propose d'écouter la réponse de Marquinhos qui a répondu assez habilement d'ailleurs à ce sujet.
On a travaillé, on sait qu'on a fait quelques erreurs et bon, c'est des petits détails à corriger. Je pense que c'est normal. Et comme j'ai dit, c'est un nouveau schéma. Nous, on a besoin un petit peu de temps d'adaptation. C'est important de les régler, ces petites erreurs, et on l'a fait. Et le coach nous a montré en vidéo. Nous, on a travaillé sur le terrain, à l'entraînement. On espère que tout sera bien réglé pour ce match de demain.
Marquinhos au micro d'Arthur et Timothée hier en conférence de presse. Alors c'est vrai qu'il y a donc cette défense à 3 qui pourrait se voir renforcée de Nordi Mukiele, qui peut jouer dans un poste axial ou également sur le côté droit. Nordi Mukiele, joueur français. Est-ce que voilà, on a vu cette phrase, la fin du Paris Saint-Germain bling bling. Est-ce que c'est aujourd'hui le Paris Saint-Germain baguette camembert?
C'est vrai que le Paris Saint-Germain travaille déjà beaucoup dans le sens des arrivées, avec donc Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, tu viens de le rappeler Arnaud, le Paris Saint-Germain qui commence aussi à s'activer sur les départs. Il y a cette tendance, oui, qui se dégage de profils français, et justement on a demandé hier à Christophe Galtier s'il y avait cette volonté absolument de recruter des joueurs français. On se souvient également des mots de Kylian Mbappé qui nous avait donné une leçon de patriotisme au moment de l'annonce de sa prolongation. Écoutez la réponse de Christophe Galtier.
Je ne crois pas qu'on soit dans cette réflexion-là. On cherche les meilleurs profils par rapport à notre système, que tous les joueurs qui arrivent soient vraiment une valeur ajoutée. Et on n'est pas dans cet objectif-là de rendre Paris plus français, le Paris Saint-Germain plus français qu'avant. Non, c'est surtout... les profils, ce que nous propose aussi le marché, les opportunités du marché qui font que nous avons recruté dans ce sens-là.
Christophe Galtier a interrogé hier. Arthur, une info là que tu viens de glaner, parce qu'on parle des arrivées côté PSG, même si là c'est un petit peu plus calme, notamment concernant un certain défenseur central qui joue en Italie, Skriniar. Mais d'ailleurs, peux-tu nous faire un point? Mais surtout, il y a une info concernant un possible départ, Idriss Agueye.
Exactement. Ce que l'on peut vous dire, c'est que depuis le milieu de la semaine, Everton est en contact régulier avec le Paris Saint-Germain pour tenter de faire revenir Idriss Agueye. Le milieu de terrain sénégalais est toujours aujourd'hui lié au club de la capitale jusqu'en juin 2023. Il souhaiterait d'ailleurs honorer cette ultime année de contrat. Mais attention, parce que ces dernières heures, les discussions se sont vraiment intensifiées entre les deux parties. elles vont se poursuivre pour tenter d'aboutir rapidement à un accord. Difficile pour l'instant de dégager une tendance sur le fait que ce soit un prêt, ce qui est un peu le tube du moment du côté du Paris Saint-Germain, ou un transfert sec. Voilà, les deux options sont envisagées. On est qu'au tout début des négociations dans ce dossier qui sera à surveiller. Tu en parlais il y a quelques instants concernant Skriniar. Le dossier est aujourd'hui en stand-by puisque les négociations sont très compliquées avec l'Inter Milan qui ne lâche rien sur le prix du transfert. On rappelle qu'au début on parlait de 70 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain tablerait plutôt sur un transfert autour des 50 millions d'euros.
Et un point complet sur l'actualité, le mercato à suivre dans une dizaine de minutes avec Florian Portin. On parlera encore un petit peu de ce qui se passe autour du PSG, de Marseille notamment, parce que il y a beaucoup de choses, ça s'intensifie un petit peu à mesure qu'on se rapproche des premières journées des différents championnats européens. Au 32-16, Farid, supporter parisien, nous a appelé. Salut Farid.
Salut les gars, salut à tous.
Farid, salut, est-ce Farid. Que tu es impatient de voir le premier match officiel du Paris Saint-Germain version Christophe Galtier tout à l'heure?
Non, franchement, je suis pas impatient du tout. au vu de ce que j'ai vécu la saison dernière, non, je suis pas impatient. Après, forcément, il y a de la curiosité parce que quand on a trouve un coach comme Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, il y a forcément des interrogations qui nous viennent. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que ça va pas être trop gros pour lui? Il y a de la curiosité, de l'impatience. Non, je pense que la saison dernière, elle a laissé pas mal de traces, en tout cas chez moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain qui l'ont mal vécu la saison dernière. Beaucoup de déceptions, beaucoup de performances assez catastrophiques. Après, le premier match de la saison, c'est toujours de la curiosité. Il y a des nouveaux coachs, dans notre cas, il y a le nouveau coach. Il y a quelques nouveaux joueurs qui arrivent, même s'il y en a. Bon, il y a pas vraiment de grands joueurs qui sont arrivés cet été. Bon, de la curiosité, pas de l'impatience, de la curiosité.
Mais est-ce que tu sens le vent du changement? Parce que c'était un peu la promesse faite, notamment par le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, au-delà, voilà, de la phrase qu'on a dit, fin du bling-bling, mais au niveau de ce qui est mis en place au camp des loges, par Christophe Galtier, une nouvelle place, est-ce que tu sens qu'il y a un vent de changement qui se met en marche ou pas du tout?
Non, mais les gars, ça, ces histoires-là, on les a tous à chaque fois qu'il y a un nouveau coach, il y a un nouveau directeur sportif, on nous vend des changements de « ah oui, mais il n'y aura plus de retard, mais il y aura des sanctions si un tel fait ci, si un tel fait ça ». Il y a tout à chaque changement d'entraîneur et de directeur sportif, on nous vend…
Donc c'est une musique que tu as déjà entendue, quoi, c'est ça?
Bah, c'est toujours le même cinéma, c'est la fameuse interview du mois de juin de Nasser Al-Khelaïfi, c'est une tradition, il dit les mêmes choses. Et il fait tout le contraire. Donc non, c'est du marketing, c'est du blabla. On aura déjà tout oublié l'année prochaine dans l'interview du mois de juin de Nasser Al-Khelaïfi. Il va dire non, mais cette année il y aura vraiment du changement. On va vraiment être dur. Là, il y aura. Bon, tous les ans, il nous explique qu'il veut une équipe made in France, made in Île-de-France, et on voit dans les faits que c'est. Au contraire, je trouve que c'est un projet assez ridicule d'ailleurs, mais on voit que dans les faits, il y a jamais les actions qui vont avec. Donc non, faut pas se faire avoir par ce genre de discours qui sont devenus un peu une tradition au mois de juin. Quoi, il y a les déclarations et la saison, on voit que. C'est complètement différent.
Arthur, on peut comprendre, hein, voilà, parce qu'ils ont une sacrée carapace. Les supporters du Paris Saint-Germain, ils en ont envalé des couleuvres. Donc on peut comprendre effectivement qu'ils soient très méfiants de ces paroles qu'on a déjà entendues. Mais par rapport à différents reportages, les échos que tu as, Arthur, oui. On sent qu'il y a, alors le juge de paix, ce sera le terrain et les matchs couperets, la Ligue des Champions évidemment, mais
la durée,
mais on sent qu'il y a quelque chose sans présumer de l'avenir, mais qu'il y a quand même un vent de changement.
Oui, et toutes ces règles dont parlait Farid il y a quelques instants ont totalement été adoptées par le groupe, y compris la méthode de travail et la rigueur tant désirée par Christophe Galtier au moment de son arrivée au club. Tout cela, le groupe y adhère déjà. Voilà, on sent des joueurs totalement impliqués, une ambiance studieuse, de la bonne humeur. Enfin voilà, tout ça, on le voit, et avec Timothée, on l'a encore ressenti hier à l'entraînement. Oui, Farid.
Excuse-moi, Arthur. Ouais, non, mais ça c'est encore une fois.
C'est le début.
C'est pas la première fois, mais tout ça, on est en préparation. C'est-à-dire, il n'y a pas de match, il n'y a pas de compétition. Tout ça, on pourra vraiment, et je souhaite que ça se passe, hein. Mais tout ça, ça sera mis à l'épreuve durant la saison quand les gars ils vont.
Mais il y a même bien avant Farid. C'est-à-dire que à partir du moment où on annoncera à tous les joueurs qui sont amenés à partir, à partir du moment où le Paris Saint-Germain dira à ses joueurs, il faut que vous trouviez une porte de sortie. Là aussi, ce sera un premier vrai test, bien avant les résultats sportifs d'ailleurs.
Le véritable test, ça sera encore une fois, ça sera la saison. Quand les matchs vont commencer à, je parle, faut dépasser le mois d'août, parce que le mois d'août, les gars, ils ont toujours un espoir de partir, de trouver un club, etc. Donc, ils se tiennent à peu près à carreau. Mais une fois qu'on sera dans la compétition, que la Ligue des Champions a commencé, que les gars seront sur le banc 1, 2, 3 matchs, qu'il y aura certaines mauvaises performances de l'équipe, et donc des gars qui vont dire, ouais, mais moi, je dois jouer, le gars qui est à ma place, il est nul, comment ça se fait qu'il continue à jouer, etc. Donc, encore une fois, les changements, ça se juge pas. Pendant les vacances, c'est comme nous, si par exemple demain je veux faire une diète, je suis en vacances.
Comme les résolutions au 1er janvier.
Une fois que j'aurai repris le boulot et que je serai reparti dans mon train-train, c'est là qu'on voit si les changements ils sont vraiment efficaces et si vraiment t'as envie de changer, quoi. Donc encore une fois, voilà, faut pas te faire. Encore une fois, ça fait des années qu'on le vit. Donc il y a 5 ans, je serais tombé dans le panneau, mais au bout de 1, 2, 3, 4 fois, on se fait plus avoir.
On te comprend, Farid. Merci à vous, Farid, d'avoir composé le 32-16. À très vite sur RMC. Arthur et Timothée, côté Nantes, vous avez glané une petite composition probable et c'est vrai qu'elle sonne quand même pas mal, Timothée, comme celle de l'année dernière. Allez, à une ou deux exceptions près.
Oui, effectivement, ce groupe nantais a pas beaucoup bougé pendant l'intersaison. Il y a quand même eu un départ très important, celui de Colomwani, qui a été compensé par l'arrivée de Mostafa Mohamed. Alors la composition de ce soir, ce devrait être Alban Lafont dans la cage, avec en défense centrale Castelletto, Giroto, Palois, sur les côtés Fabio et Marcus Coco. Au milieu de terrain, Moussa Sissoko et Pedro Chirivella, et puis Ludovic Blas probablement en soutien de Evan Guessant et de Moses Simon, même s'il y a une incertitude sur le fait que ce soit Evan Guessant ou Mohamed Mostafa qui d'ailleurs pourrait recevoir un accueil houleux ici en Israël. Les rapports entre les peuples israéliens et égyptiens, et ce malgré les accords de paix de 79, restent quand même plutôt tendus.
Et on avait vu d'ailleurs Arthur, alors pour le coup il n'y a pas eu de conflit récent entre le Maroc et Israël, mais Achraf Hakimi l'année dernière c'était déjà à Tel Aviv être un petit peu conspué.
Oui, mais l'âge de guerre semble être enterré. Hein. Timothée va pouvoir aussi en parler. Hein.
Alors, l'âge de guerre est enterré depuis longtemps entre les deux pays, mais c'est pas vraiment sa nationalité marocaine qui posait problème. C'est plus ses prises de position pro-palestinienne qu'il avait très clairement affichées sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui lui avait valu d'être sifflé. Faudra voir encore une fois là comment il sera perçu aujourd'hui. Ceci étant, on est en train de chercher un petit peu la petite bête, parce que l'événement devrait être plutôt réussi. On sent une certaine impatience ici à Tel Aviv quant à ce trophée des champions. Il y a une vraie volonté de voir ce bel événement être réussi. Bloomfield Stadium, qui est absolument splendide. Je peux vous dire que j'étais venu en 2007. On était bien loin de ce magnifique écrin qui est proposé aujourd'hui. Et ça devrait être un beau succès populaire ici pour deux raisons. D'abord parce que les Israéliens n'ont pas nécessairement souvent la chance de voir jouer Lionel Messi ou Neymar. Et puis aussi parce qu'il y a actuellement, comme c'est souvent le cas pendant la période estivale, beaucoup de Français à Tel Aviv et en Israël en général.
Pour finir sur Nantes, comment vous les avez trouvés, les Nantais? C'est vrai qu'on parle beaucoup du Paris Saint-Germain, Nantes qui sera en Europa League, qualifié directement pour la phase de poule avec cette victoire en Coupe de France. Les Nantais plutôt détendus, est-ce qu'ils peuvent faire un coup comme Lille, qui était champion de France en titre l'année dernière, l'avait fait, puisque les Lillois avaient battu le Paris Saint-Germain?
Alors faire un coup, c'est le projet officieux de Antoine Camboire. Officiellement, ce match rentre dans la préparation de la pré-saison. C'est Nantes. Il a affirmé qu'ils étaient totalement outsiders et que très clairement il y avait pas de match finalement face au Paris Saint-Germain, mais que si Nantes était à 100% et que le Paris Saint-Germain faisait quelques erreurs, alors il y aurait quelque chose à jouer. Mais clairement, Antoine Camboire a décidé de se donner cette position d'outsider, de s'enlever un petit peu de pression. Mais finalement, c'est très convenu comme discours avant les matchs de Ligue 1, de quelque équipe qu'elle soit, avant d'affronter le Paris Saint-Germain. En tout cas, cette équipe de Nantes qui a envie d'engranger une bonne dynamique, parce que il va y avoir la Coupe d'Europe pour Nantes. C'est une nouveauté, ça fait un moment que ça n'a pas été le cas pour les Canaries, et un calendrier extrêmement chargé jusqu'au début de la Coupe du Monde. Donc forcément, ce match il a vocation à être un match de préparation, mais aussi de lancer une dynamique côté nantaise. Écoutez Antoine Camboire.
Bien sûr qu'on aimerait que cette dynamique, elle se poursuive dans le temps. Et ça passe par un gros match demain, ça passe, je l'espère, par une victoire. Mais on sait tous que les saisons se suivent, ne se ressemblent pas toujours. Moi, ce qui va être intéressant cette saison, c'est de voir donc le comportement de mes joueurs. La saison dernière, c'est une chose. Et puis cette année, si on pense qu'on est une équipe forte et puis que les joueurs donc en face, les adversaires donc, vont nous respecter, vont rapport de nous, on se trompe. Donc ça va être super intéressant parce que j'aurai des éléments de réponse à chaque fois.
Nantes qui retrouvera dans un peu plus d'un mois, lors de la sixième journée, le Paris Saint-Germain en championnat. Les Canaries qui débuteront à Angers dimanche prochain à 15h avant de recevoir Lille et de se déplacer à Marseille pour commencer. Anthony, supporter de Nantes, est avec nous. Salut Anthony.
Salut RMC, salut l'équipe.
Bon, est-ce que tes Canaries vont faire un coup contre le Paris Saint-Germain? Est-ce que tu y crois ce soir?
Alors ouais, moi j'y crois, mais pour plusieurs raisons. Hein. On a, je pense qu'on surfe toujours un petit peu, on est toujours un petit peu euphorique avec cette Coupe de France qu'on a gagnée. Je pense qu'Antoine Kouambouaré, il a des plans assez stratégiques, je pense, pour ce soir. On a vu une préparation nantaise qui était assez mitigée dans l'ensemble, mais on voit que le groupe vit bien puisque on n'a pas perdu tant de joueurs que ça la saison dernière. Et je pense qu'avec cette animation qu'on a dans ce groupe, il y a une possibilité de faire quelque chose ce soir. Ouais.
Bon, vous avez quand même perdu le dernier match de préparation dans un derby contre Rennes. D'ailleurs, c'est souvent un peu étonnant de faire un petit derby Rennes-Nantes en prépa.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un petit peu impressionnant. Après, bon, je pense que ce qui peut manquer ce soir au Nantais, c'est forcément ce public qu'on a à Nantes et on l'a vu au Stade de France. On était, je pense, pas loin des 80% d'un Stade de France jaune et vert. Et je pense que ça peut peut-être jouer en faveur plutôt des Parisiens que des Nantais ce soir. Mais moi j'y crois cette victoire. J'y crois. Je pense que ça peut passer quand même.
Et comment tu sens cette saison? Il y a le retour de la Coupe d'Europe avec cette qualification directe en phase de poule d'Europa League. Donc il y aura au moins 3 matchs à la Beaujoire européen. Est-ce que tu es confiant? Il y a de la continuité parce que Antoine Kouambouaré est toujours sur le banc. Un peu de changement avec le départ de Randal Kolo Muani, mais il y a eu quelques recrues arrivées. Comment tu sens cette saison pour Nantes?
Bah moi cette saison je la sens plutôt bien. Alors pour vous dire, moi du coup cette année j'ai pris mon abonnement. Hein, et je crois qu'on
c'était la première fois où tu avais arrêté et tu reprends?
Non, j'avais arrêté et je l'ai repris. Alors aussi pour des questions de pour s'organiser aussi pour les matchs d'Europa League. Mais et qu'on sera, voilà, il y aura des ventes prioritaires, j'imagine, pour les abonnés. Mais je pense que cette saison elle peut être très dure en fait. La première partie de saison, je pense qu'elle peut être très dure puisque on va être sur une moyenne de 3 matchs par semaine à peu près.
Mais oui, avec la Coupe d'Europe qui va arriver très vite en septembre. Ouais.
Voilà. Est-ce qu'on va avoir l'effectif qui va pouvoir assurer justement, parce qu'il faut aussi dire qu'on a quand même le championnat. On est sur un championnat cette année qui va être très très relevé puisque on est sur 4 descentes. Moi demain si le parcours des Nantais en Europa League s'arrête en soi, je serais déjà satisfait d'avoir vu mon équipe revenir sur la scène européenne. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment tout miser sur le championnat. Antoine Kouambouaré, apparemment, tente d'avoir des recrues. Alors, on sait qu'à Nantes, c'est toujours compliqué avec notre cher président. Mais voilà, j'espère qu'on arrivera à avoir un effectif solide et qui arrivera, pourquoi pas, peut-être recréer une euphorie comme on a pu avoir l'année dernière avec la Coupe de France. Ce serait génial.
Merci Anthony, et puis on est heureux de revoir cette ferveur européenne à la Beaujoire. C'est vrai que l'as mentionné à juste titre, le soutien des supporters nantais avec cette belle finale de Coupe de France au Stade de France à Paris. C'était beau de revoir les Canaries au sommet. Merci Anthony, très bonne saison et très bon match pour le FC Nantes ce soir à 20h face au Paris Saint-Germain, commenté par Timothée Mémon et Arthur Perrault. Merci beaucoup messieurs.
Salut Arnaud.
Ciao, et on vous retrouve tout au long de cet après-midi pour faire monter un petit peu la sauce pour ce premier match officiel pour deux clubs de Ligue 1, le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. À tout à l'heure messieurs. Nous revient dans un instant dans l'intégral sport avec plein d'infos mercato, faire un point sur les dossiers brûlants de ce week-end. C'est tout de suite dans l'intégral sport sur RMC, ne bougez pas.
RMC, intégral sport.
Arnaud Valadon.
Et un très bel après-midi de sport pour vous accompagner. On parlera Formule 1, puisque le Grand Prix de Hongrie, c'est tout à l'heure à 15h à vivre sur RMC. Jean-Luc Roy, Denis Chevrier, dernier Grand Prix avant la pause de 4 semaines réglementaires en Formule 1. Et puis dans 10 minutes, le Tour de France Femmes, c'est la 8e et dernière étape. Dimanche dernier, elles se sont élancées de l'Île-de-France, de Paris. Aujourd'hui, elles vont grimper la super planche des belles filles, les coureuses du Tour de France femme. Valentin Jamin est notre envoyé spécial, il nous dira tout, surtout hier après le coup de force de Van Vleuten qui s'est adjugé le maillot jaune au terme d'une étape incroyable. C'était la première étape de montagne hier avec le petit et le grand ballon d'Alsace. Mais avant tout cela, c'est le Mercato Show et on accueille Florian Porta.
RMC, le Mercato Show.
Bonjour Florian.
Salut Arnaud, salut à tous.
Les points sur les différents dossiers chauds. On a parlé du Paris Saint-Germain il y a quelques instants et c'est vrai que il y a ce fameux dossier Skriniar, ça patine un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pistes qui sont lancées?
Et oui, vu que le dossier Skriniar patine, le PSG se lance sur la piste Wesley Fofana. Sur le papier, l'idée a tout pour plaire. Un jeune défenseur prometteur et à la fois expérimenté en première ligue. Il est en plus français. En bref, Fofana coche pas mal de cases, mais malheureusement pas toutes. Une d'ailleurs pourrait poser problème au club de la capitale, son prix. Officiellement aucun montant n'a encore filtré, mais il se murmure que les dirigeants de Leicester en demanderaient pas moins que 87 millions d'euros, soit le montant déboursé par Manchester United en 2019 pour aller chercher Harry Maguire, devenu depuis le défenseur le plus cher de la planète. Alors quand on sait que la piste Skriniar a bloqué déjà à cause des 70 millions réclamés par l'Inter, difficile d'imaginer ce dossier aboutir, et ce d'autant plus que Chelsea, déjà devancé sur plusieurs dossiers cet été, serait également sur le coup.
Et en plus, Wesley Fofana est beaucoup plus jeune que Skriniar, 21 ans pour l'ancien Stéphanois, qui c'est vrai jouit d'une très bonne cote parce que il est extrêmement performant avec Leicester et déjà à l'époque avec Saint-Etienne, on avait tous vu que c'était un crack. Du côté des départs à Paris, parce que c'est bien les arrivées, mais c'est vrai que pour la direction parisienne, il y a un grand enjeu à faire partir un certain nombre de joueurs.
Oui, et certains indésirables pourraient bien faire leur valise et rapporter quelques billets aux Parisiens. Parmi eux, Jorginho Wijnaldum. C'était déjà dans les tuyaux depuis plusieurs jours, mais le néerlandais devrait enfin signer à la Roma. C'est en tout cas ce qu'indique la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien rapporte que les deux clubs sont tombés d'accord pour un prêt avec option d'achat. Une option qui avoisinerait les 10 millions d'euros. De son côté, le joueur aurait lui consenti à quelques efforts sur le plan financier. Toujours au milieu de terrain, Idrissa Gueye pourrait lui aussi quitter Paris et retourner à Everton, où il était arrivé en direction de la capitale. Prêt ou transfert sec, rien n'a encore été décidé, mais les discussions entre les deux clubs devraient s'intensifier dans les prochains jours.
Une seule saison seulement pour Jorginho Wijnaldum, qui était quand même sur le papier arrivé de Liverpool, qui est un joueur qui avait quand même joué plus de 200 matchs avec les Reds. C'est vrai que c'est qui peut difficilement compréhensible pourquoi la greffe n'a pas pris avec Paris, mais voilà, c'est le football. À Marseille, on descend dans le sud, Marseille qui jouera tout à l'heure contre l'AC Milan à 18h au Vélodrome, dernier match de préparation. Un défenseur est mis au placard.
Et oui, si le grand attaquant est tant attendu encore du côté de Marseille, la défense est un sacré chantier et il est toujours en cours. Depuis le début de ce mercato, l'OM cherche à se refaire une défense et a priori ce sera sans Jordan Amavi. Selon la Provence, l'ancien Niçois se serait accroché avec Gerson à l'entraînement. Derrière, Igor Tudor a tranché. Le Brésilien reste dans le groupe pendant qu'Amavi, pas forcément dans les plans du Croate au passage, file au placard. Il y retrouvera un certain Kevin Strootman, seul à l'entraînement depuis la reprise.
Et puis il y a aussi la résiliation d'Alvaro, mais ça RMC vous l'annoncez dès fin juin avec les informations de Florent Germain, notre correspondant sur place. Ça c'est au rayon des défenseurs, mais aussi devant, Florian, les Marseillais cherchent à dégraisser.
Oui, et là c'est plutôt une surprise quand on regarde sa progression l'année passée, mais Bamba Dieng pourrait bien quitter l'OM. Depuis l'arrivée d'Igor Tudor, le Sénégalais a clairement reculé dans la hiérarchie. Aujourd'hui, il se retrouve derrière Milik, Bakambu, Soares et même Dimitri Payet pour jouer en pointe. C'est Benfica qui aurait approché Marseille pour discuter de Bamba Dieng. Mieux, les Portugais proposeraient un prêt avec option d'achat. C'est d'ailleurs ce dernier point qui doit encore être fixé entre les deux clubs. Les Marseillais réclament 15 millions, là où Benfica n'en met pour le moment que 12.
Et ce match de préparation, dernier match de préparation de l'Olympique de Marseille ce soir à 18h au Vélodrome face à l'AC Milan. Il y aura d'ailleurs plus de 60 000 personnes pour, c'est vrai, cette affiche qui rappelle de très bons souvenirs à l'Olympique de Marseille et cette finale de Ligue des Champions 93. Eh bien, ce match est à suivre sur RMC Story, la chaîne numéro 23 de la TNT, ainsi que sur BFM Marseille Provence, BFM Toulon Var, ainsi que RMC Sport. À 14h, on parlera longuement de cette rencontre importante pour l'Olympique de Marseille, car au-delà de l'affiche de rêve, il y a un enjeu pour l'OM à bien se préparer pour la reprise de la Ligue 1, eux qui accueilleront dimanche prochain le Stade de Reims pour la dernière rencontre de cette première journée de Ligue 1. Évidemment, sur RMC, vous pourrez suivre tous ces matchs de Ligue 1. Florian, on continue les infos Mercato avec le LOSC. Renato Sanchez est un des noms qui revient le plus souvent au rayon des départs, mais pour l'instant, le Portugais, il est toujours lillois.
Oui, il est toujours lillois, mais selon les dernières informations de Fabrizio Romano notamment, le LOSC vise Ludovic Blas, qui pourrait correspondre donc à un remplaçant du Portugais. Alors les deux joueurs n'ont pas tout à fait le même profil, même si Blas possède aussi l'avantage de pouvoir évoluer à la fois dans l'axe mais aussi sur les côtés. Surtout, le Nantais rentre dans les critères de recrutement du LOSC. Lille et Paulo Fonseca souhaitent désormais que leur prochaine recrue soit française.
Du côté de Nice, Walter Benitez est parti, il n'a pas été conservé, lui qui était en fin de contrat, et Nice cherche un gardien évidemment pour le remplacer.
Exactement, et c'est d'ailleurs Marcin Bulka, lui, l'habituel numéro 2 la saison passée, qui gardait les cages des Aiglons hier soir face au Torino. Seulement voilà, le Polonais est jugé encore un peu tendre pour passer numéro 1 malgré son potentiel. Pour prendre sa place, l'équipe indique ce matin que Nice serait tombé d'accord avec Peter Schmeichel, 35 ans, donc plutôt expérimenté pour le coup. Pas de quoi perturber Bulka en revanche. S'il arrive, je vais quitter le club, plaisantait-il hier soir, avant de rappeler que la concurrence faisait partie du jeu. Quoi qu'il en soit, la balle est désormais dans le camp de Leicester. Les Foxes attendraient simplement de tenir son remplaçant pour le libérer.
Kasper Schmeichel, son père, c'est Peter qui, évidemment, le Danois, nous avait bien enforté. C'est pas grave, Florian, hein, c'est tel père, tel fils. Hein. Juste cette dernière petite info, Florian, c'est pas du mercato, mais c'est vrai que cette nouvelle nous avait tous un petit peu émus. C'est Sébastien Haller qui s'était vu diagnostiquer une tumeur.
Oui, on en sait désormais un peu plus. Les nouvelles sont pas forcément réjouissantes, puisqu'en réalité, la tumeur de l'Ivoirien est en réalité maligne. En d'autres termes, il va devoir passer par la case chimiothérapie. On rappelle qu'il s'était déjà fait opérer pour soigner cette même tumeur située au niveau des testicules. Alors pour voir ses grands débuts avec le Borussia Dortmund, il faudra encore attendre quelques mois. C'est en tout cas ce que le club a annoncé dans un communiqué.
Ouais, des nouvelles rassurantes. Merci beaucoup Florian Porta pour ce point complet sur l'actualité Mercato en France et en Europe. Nous, on revient dans un instant dans l'Intégral Sport. Tour de France femme, la 8e et dernière étape, le dénouement. Est-ce que la maillot jaune qui a remporté brillamment la première étape de montagne hier dans les Vosges, Van Leuten, va le conserver? Eh bien, Valentin Jamin nous dira tout dans quelques minutes.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
13h44 sur RMC, on est heureux de vous accompagner en ce début de dimanche après-midi. C'est vrai que vous êtes nombreux sur les routes, hein, avec pas mal de points de difficulté, de bouchons, un point de trafic qui sera de nouveau effectué dans un petit quart d'heure. Nous, on s'intéresse au cyclisme. Hier, il y a eu les hommes avec la classique San Sebastian et la victoire de Remco Evenepoel. Et il y a les femmes qui terminent aujourd'hui avec, évidemment, ce final en apothéose. La super planche des belles filles, étape de 123 km entre Lure. Et donc cette super planche, et on sur place, on retrouve Valentin Jamin. Bonjour Valentin.
Salut Arnaud, bonjour à toutes et à tous.
Effectivement, on dit finale en apothéose parce que c'est vrai que ce dernier kilomètre que l'on a découvert il y a peu de temps chez les hommes et qui est souvent mis au programme du Tour de France est un véritable classique. Est-ce qu'il y a un engouement? On voit un peu circuler sur les réseaux sociaux, Valentin, énormément de monde qui se sont pris déjà tôt pour commencer à gravir cette super planche des belles filles, ultime ascension, et ce sera d'ailleurs les ultimes hectomètres de ce Tour de France femmes.
Oui, c'est ce qui était marquant ce matin. On est monté en navette, nous, parce que l'accès est difficile ici à la super planche des belles filles. Il y avait énormément de cyclotouristes, énormément de fans qui montaient à vélo. Et là, quand je me retourne derrière les barrières, il y a déjà effectivement pas mal de monde. Les gens se ravitaillent. Il y a déjà des drapeaux sur les balustrades. Certains montent à pied jusqu'à la super planche, parce que la planche des belles filles, c'est une chose. Mais la super planche des belles filles, c'est la planche plus un kilomètre avec des pentes à 24% d'inclinaison sur une route non goudronnée. Donc c'est impressionnant. Donc il y a un vrai oui, un vrai engouement. On se rappelle des images qu'il y avait pour les garçons il y a quelques semaines. Alors peut-être que ce ne sera pas dans les mêmes proportions, mais ce sera vraiment une belle fête. Il y a des écriteaux aussi sur la route. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour cette dernière étape en apothéose.
Hier, Annemiek van Vleuten s'est emparée du maillot jaune, première étape de montagne. Et là, moi je veux le dire, quand je l'ai vue réaliser déjà quelque chose d'exceptionnel et presque assommer la course. Hein.
Oui, oui, bah elle est partie de très très loin. Alors on pouvait s'y attendre. Hein. Annemiek van Vleuten, c'était la favorite, la néerlandaise. Elle sort d'une victoire sur le Tour d'Italie, le Giro. Elle avait été un petit peu malade sur les trois premières étapes, mais la montagne, c'est son domaine et on savait qu'elle pouvait, qu'elle était capable d'attaquer de loin. Et hier, il y avait trois cols de première catégorie. Et bien dès le premier, à 80 km de l'arrivée, elle a attaqué. Elle a emmené dans sa roue sa compatriote, la seule qui a pu la suivre, Demi Vollering, la coureuse de 25 ans. Et cette dernière a explosé lorsque van Vleuten a de nouveau attaqué à 60 km cette fois-ci de l'arrivée. Elle est partie toute seule, van Vleuten. Résultat, victoire d'étape avec plus de 3 minutes d'avance sur Vollering. Maillot jaune, pas maillot à poids pour un petit point. C'est Demi Vollering, justement, la néerlandaise qui l'a. Mais voilà, effectivement, les écarts sont quand même conséquents ici, alors qu'il reste une seule étape. Van Vleuten est en tête au classement général. 3 minutes 14 derrière la deuxième Demi Vollering. Et puis complète le podium la polonaise Katarzyna Niewiadoma qui est à 4 minutes et 33 secondes. Donc, pour le classement général, en tout cas pour les deux premières places, ça semble presque établi. Et derrière, on va se battre pour la troisième, la quatrième, la cinquième place, parce que là, les écarts sont beaucoup plus resserrés.
Et les Néerlandaises qui dominent ce Tour de France femme. On a vu évidemment Marianne Vos qui a perdu son maillot jaune hier, qui s'est illustré sur les premiers jours de course. C'est possible qu'il y ait un changement, que Vollering, qui a 3 minutes 14 3 minutes 14 de retard, puisse s'imposer face à Van Vleuten. Il y a encore quelques difficultés, hein, sur le profil de ces 123 km.
Alors, ne jamais dire jamais, honnêtement, ce serait un gros exploit, ce serait un énorme coup de force. Alors oui, pour le parcours, il y a une côte de deuxième catégorie, la côte d'Esmoulières qui va commencer le parcours. Ensuite, on aura la montée du Ballon d'Alsace, côte de première catégorie, col de première catégorie, 8,7 km à 6,9%. Le sommet de ce col du Ballon d'Alsace est à 40 km de l'arrivée. Donc, la fin à la super planche des belles filles. On a envie de dire que si Annemiek van Vleuten et dans sa forme habituelle, elle ne devrait pas avoir trop de soucis, même si on sait que sur la super planche, il peut y avoir des écarts très importants sur très très peu de distance. On peut perdre des trentaines de secondes sur 2 ou 3 kilomètres. Donc voilà, ne jamais dire jamais. Mais hier, Demi Vollering, elle était très fatiguée, elle a été percutée de crampes. On l'a vu en zone d'interview, elle ne voulait pas rester trop longtemps parce qu'elle était exténuée. Donc difficile de la voir faire flancher van Vleuten, qu'on peut d'ailleurs écouter, puisque hier, évidemment, elle avait un immense sourire, maillot jaune sur les épaules. Elle nous a raconté un petit peu la joie, la fierté qu'elle avait de porter ce maillot de leader sur le Tour de France, qu'elle compte bien garder, Annemiek van Vleuten.
C'est vraiment les montagnes russes. Après avoir été tellement malade, gagner ici, c'est vraiment incroyable, surtout en solo. Je devais tenter ma chance parce que c'est ma manière de courir, mais aussi parce que j'avais du retard. Après 6 jours à survivre et à récupérer, je voulais faire les plus gros écarts possibles. Cette étape me convenait parfaitement. Je savais que si j'étais en forme, ce serait ma journée. J'associais le maillot jaune aux hommes, je ne l'imaginais pas sur moi. Mais depuis que je l'ai vu sur Marianne Vos, je dois dire qu'il est plutôt pas mal. C'est un magnifique cadeau après cette belle victoire.
Extra present of this beautiful victory.
Annemiek van Vleuten, à ton micro, Valentin Jamin. Bon, pour ce Tour femme, faut dire que van Vleuten, c'est pas n'importe qui. Hein. À 39 ans, elle a un palmarès long comme le bras et on peut citer notamment son titre olympique du contre-la-montre, hein, il y a un an.
Oui, voilà, elle a remporté le titre olympique du contre-la-montre sur les Jeux Olympiques de Tokyo il y a un an, championne du monde en 2019, 2 Tours des Flandres, 2 Liège-Bastogne-Liège, 2 fois l'Estrade Bianche, 2 fois la course by le Tour, 3 fois le Giro d'Italie où elle a gagné 13 étapes. Bref, c'est une légende, hein, c'est une légende ici et elle impressionne encore tout le peloton à 39 ans. Donc Annemiek van Vleuten, c'est pas une surprise de la voir ici. Voilà, il y a des poursuivantes, mais elles sont loin. Et parmi ces poursuivantes d'ailleurs, hein, il faut qu'on en parle, il y a Juliette Labousse quand même, Arnaud.
La première
française au classement général qui a été remarquable hier, qui a fait une très très belle étape. Elle a terminé quatrième, hein, elle a 23 ans, elle est dans la même équipe que Romain Bardet, figurez-vous, le team DSM, donc équipe néerlandaise. Et donc elle est quatrième au classement général, quatrième de l'étape d'hier. Mais au général, elle est à 5 minutes 22 de van Vleuten, mais surtout elle a 49 secondes du podium. Donc on peut rattraper, pourquoi pas, cet écart sur la super planche des belles filles. Ça va être un des enjeux pour Juliette Labousse qui visait un top 5 et qui se révèle un petit peu aux yeux du grand public français.
Oui, ça va être un petit peu l'attraction pour cette journée, savoir est-ce que côté de l'équipe de la Française, Juliette Labousse, elle va pouvoir aller chercher ce podium à moins d'une minute, hein.
Voilà, c'est ça, moins d'une minute à 49 secondes pour la tricolore qui est la leader de son équipe, qui était fière hier. Hier, voilà, elle s'est sentie bien. Bon, elle a dit évidemment qu'elle n'avait pas les jambes pour suivre Annemiek van Vleuten. Mais voilà, mais se dresse sur sa route la super planche des belles filles. On l'a vu, on l'a dit, hein, par rapport aux garçons, que ça peut faire de gros écarts. On a interrogé hier des coureuses sur ce que ça pouvait représenter. Alors, Juliette Labousse, elle l'avait déjà reconnue. Elle dit c'est super dur, mais ça lui fait pas plus peur que ça. En revanche, ça en impressionne certaines. On en a parlé par exemple hier avec la coureuse d'Arkea, Morgane Coston. Écoutez.
Je pense pas que ça fasse flipper, c'est la dernière ascension du tour. Ça va se faire à la pédale et les meilleurs vont jouer le classement général là-dedans. Ça fait pas forcément flipper, on l'a reconnu. On sait que ça va être très très dur, mais ce sera l'ascension finale et après ça, on rentre tous à la maison, donc il faudra en profiter. On va être complètement éclatés et on sera super contents d'arriver au bout et de se dire ben, on a fait le premier Tour de France, on l'a bouclé. Puis je pense que ce sera sauf qui peut et chacun pour sa gueule, quoi.
Voilà, il y aura la petite coupe de champagne probablement après pour fêter la fin du tour. Alors, pas forcément peur pour Morgane Coston. Marie Lonnette de l'équipe FDJ Suez Futuroscope, elle jouera le rôle d'équipière de Cécilie Ludwig qui est quatrième au classement général. Marie Lonnette, un petit peu moins sereine que Morgane Coston.
Je l'ai jamais faite, je l'ai vue à la télé pour cette année les garçons. Et quand j'ai vu certains garçons la monter à pied, oui ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. Mais bon, je me dis que c'est la dernière et il risque d'y avoir plein de public. J'espère avoir en haut Cécilie en maillot jaune, donc j'ai hâte d'y être.
Voilà, bon, pour le maillot jaune, ce sera un petit peu difficile hein, pour Cécilie Utrup Ludwig, la danoise leader de l'équipe française FDJ Suez Futuroscope, qui est cinquième, pardon, non pas quatrième, mais cinquième à 5 minutes 59. Mais voilà, il y a de l'impatience quand même de réaliser ce défi, et ça fait un petit peu peur, et même quand on la monte en voiture, je peux vous dire que c'est impressionnant, donc j'imagine pas à vélo après 7 jours de course.
Peut-être du champagne ou du kirsch, c'est un peu plus régional. Hein,
oui, c'est plus régional,
c'est vrai. De la Haute-Saône et de la super planche des belles filles. Valentin, toi, qui a couvert quelques étapes du Tour de France masculin cette année là, qui suit les filles depuis quelques jours, est-ce que tu vois un petit peu des similitudes? On parle un petit peu moins de journalisme, mais quand même une présence médiatique. Est-ce que on parle aussi de la caravane? Est-ce qu'on retrouve les mêmes ingrédients, le même folklore?
Oui, pour être très honnête, les directeurs sportifs avec qui on a pu parler, les coureuses, ont été très agréablement surprises par l'engouement, par le public sur le bord de la route, parce que le public se déplace, et en plus le public se déplace exclusivement pour les femmes. On aurait pu dire, si la course avait été avant les hommes, que le public était là pour profiter des hommes et que comme les femmes passaient avant, ils étaient là. Non, là les gens montent dans l'école pour voir le Tour de France femmes. On a vu des magnifiques images hier dans l'école où il y a beaucoup de monde qui encourage les filles, voilà, on court à côté, même s'il ne faut pas courir trop près, on le rappelle, mais on encourage à côté les filles. Il y en a qui sont déguisées en coque bleu, blanc, rouge. Il y a des mots sur la route, il y a des maillots, il y a des banderoles, il y a énormément de choses comme ça qu'on voit souvent chez les garçons, et preuve que les filles sont agréablement surprises et le découvrent. On a vu pas mal d'entre elles des fois regarder sur le côté, faire des petits coucous, répondre au public, parce que il y a vraiment cette fraîcheur en fait et cette bonne surprise. En ce qui concerne les médias, les journalistes, alors évidemment il y a moins de journalistes que sur le Tour de France homme, mais encore une fois certains directeurs sportifs nous disaient qu'ils étaient très agréablement surpris par la couverture médiatique, qu'on ne faisait pas que ça par le prisme du oh là là c'est bien, les femmes font du cyclisme et c'est bien pour le sport féminin. Voilà, on les traite comme des sportifs de haut niveau, comme des sportifs professionnels, et ça plaît aussi aux équipes qui sont donc agréablement surprises par tout ça. Il y a aussi la caravane, les gens l'attendent, elle est plus petite, hein, elle est moins conséquente que sur le Tour de France homme, mais voilà, tout ce qui est autour, les podiums, la flamme rouge, la ligne d'arrivée, les protocoles, les zones mixtes, donc les zones d'interview avec les journalistes, tout ça fait que ça ressemble, oui, au Tour de France homme, et on pense que dans les années à venir, ça va encore de plus en plus se rapprocher de l'organisation des garçons.
D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site RMC Sport Marion Rousse, qui était l'invité des grandes gueules du sport, la directrice du Tour de France Femmes, qui tire un bilan positif et qui saluait vraiment ce public, parce que voilà, il y avait, on connaissait pas forcément l'engouement du public, surtout qu'on sortait de 3 semaines de Tour, que finalement là ça se prolongeait quelque part avec cette semaine de compétition pour le Tour de France Femmes, et c'est vrai que ça répond présent, et on est heureux de découvrir ces nouveaux visages entre guillemets. même si Marianne Vos, on avait un petit peu l'habitude de la connaître. Van Vleuten, on l'a vu aux Jeux Olympiques, mais voilà, tu nous as parlé des Juliette Labousse. Alors il y a Audrey Cordon-Rago aussi, voilà, toutes ces Françaises aussi. Ça, c'est des nouveaux noms qu'on va être amené évidemment à retrouver l'an prochain, parce qu'on voit pas pourquoi il n'y aurait pas de deuxième édition de ce Tour de France Femmes.
Non, oui, il y aura une deuxième édition du Tour de France Femmes. Il va même se poser la question peut-être à un moment. Bon, ça, ce sont des perspectives qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais est-ce qu'on va pas rallonger un petit peu ce Tour de France Femmes, puisque par exemple le Giro en Italie c'est 10 jours. Les femmes sont capables, selon ce qu'elles disent, de prolonger un petit peu l'effort. Mais oui, il y a des noms qu'on apprend à connaître. Alors c'est vrai que c'était peut-être le petit bémol quand on interviewait un petit peu des spectateurs, des supporters, ils avaient du mal à citer encore des noms de coureuses. Mais ça va venir. Il faut prendre le temps, on est sur une première édition. Les gens vont peut-être aussi regarder parce qu'il y a des classiques féminines qui existent, Paris-Roubaix, etc. Ça existe aussi pour les femmes, et peut-être que les gens vont s'intéresser de plus en plus au cyclisme, regarder de plus en plus les classiques, et derrière ça va faire un cercle vertueux. On peut parler aussi économie, les sponsors vont être ravis probablement des retombées, de voir les femmes monter sur les podiums. On va voir les sponsors, ça va pousser à investir. Derrière, quand on investit, ça permet bien d'acheter par exemple des bus, ça va améliorer l'organisation sur les courses, ça va améliorer les niveau, et derrière ça va faire un cercle vertueux. Donc on n'en est pas qu'au début, mais voilà, c'est un premier pas, et je pense que c'est très très bien enclenché. On aura des futures éditions, et derrière ça ne peut aller que mieux.
Merci beaucoup Valentin Jamin, évidemment tu restes connecté puisque ça va pas tarder à partir
minutes.
Ça part dans 5 minutes de Lure pour 2h30 de course à peu près jusqu'à 17h30,
même 3h30
même, avec une arrivée prévue aux alentours, les fiches horaires parlent entre 17h20 17h50.
Exactement, c'est ça.
À la super planche des belles filles, Valentin qui nous fera vivre évidemment les premiers kilomètres et toute l'étape de ce Tour de France femmes, avec donc ce départ à Lure et l'arrivée à la super planche des belles filles, 123 kilomètres. À tout à l'heure, Valentin. Merci beaucoup.
À tout à l'heure, Arnaud.
Et nous on revient dans un instant sur RMC pour cette deuxième heure de l'Intégral Sport. On va parler de l'Olympique de Marseille et son dernier match de préparation tout à l'heure à 18h. 60 000 personnes au Vélodrome, et on aura également un invité. Vous savez, hier c'était la Ligue 2 avec Guingamp qui a impressionné, victoire 4-0 à domicile contre Pau, et le FC Metz qui est aussi une équipe reléguée de Ligue 1 à Ligue 2. Il n'y a pas que Bordeaux et Saint-Etienne. Le capitaine du FC Metz, Mathieu Udol, sera avec nous pour parler de cette victoire éclatante 3-0 hier à Saint-Symphorien, évoquer la saison à venir pour les Grenats du côté de la Moselle. À tout de suite dans l'Intégral Sport sur RMC.
RMC Intégral Sport.